Bonjour à tous. À la une ce matin, le Venezuela étouffé par sa dette. Le pays ne parvient plus à rembourser ses créanciers. Il est à deux doigts de la banqueroute. Dernier épisode d'une crise politique et économique sans fin. Le plus vieux dictateur d'Afrique est-il sur le point de tomber? Robert Mugabe, 93 ans, dont 37 années passées à la tête du Zimbabwe, a peut-être été renversé cette nuit. En France, encore une affaire d'agression sexuelle présumée. 8 femmes accusent l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes. Dans 20 minutes, question sur le paysage politique avec votre invité Nicolas. A-t-il vraiment changé ce paysage depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Vous recevez le politologue Pascal Perrineau.
Oui, il publie sur la présidentielle et les législatives de 2017 le vote disruptif aux éditions Sciences Po. On verra ce que ça veut dire exactement. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le prix des mutuelles va-t-il s'envoler? Elle menace de répercuter la nouvelle taxe sur les grandes entreprises. Les supermarchés Auchan qui bannissent le glyphosate de leur rayon à partir d'aujourd'hui. Un trésor oublié depuis 800 ans, retrouvé à l'abbaye de Cluny. Et puis au cinéma, un film à ne pas manquer, Le Musée des Merveilles. C'est le conseil de France Inter en ce mercredi. Sur le papier, c'est un pays riche, très riche, même assis sur les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et pourtant, le Venezuela est donc au bord du gouffre, incapable de rembourser les dernières traites de sa dette. Tour à tour, les agences de notation viennent de l'enfoncer encore un peu plus en estimant que le pays est en défaut de paiement. En clair, il ne faut plus lui prêter. Le pays est plombé par la chute du prix du pétrole, par une crise politique sans fin et par les sanctions américaines. Alors, le modèle chaviste résistera-t-il à la tempête? Reportage à Caracas du correspondant d'RFI, Julien Gonzalez.
Si beaucoup de Vénézuéliens se sentent perdus face à cette annonce, d'autres ne cachent pas leur inquiétude. Isabel Guillén est employée dans une papeterie. Elle redoute à terme la faillite du pays.
Je suis très préoccupée. C'est clairement la faute du gouvernement et de tout ce qui a été volé, mal dépensé, tout ce qui a été offert. Nous n'avions jamais vécu une situation économique pareille. On manque de nourriture, de médicaments, les salaires ne suffisent pas pour manger. Et vu ce que l'on vit en ce moment, si l'on arrive à une situation encore plus critique, comment va-t-on faire, on mourra définitivement de faim.
Un scénario balayé par Lorenzo Sanchez qui dénonce la guerre économique menée contre Caracas. Pour ce serveur, le Venezuela est une puissance économique riche avec de vrais atouts.
Un défaut de paiement au Venezuela, ça n'arrivera jamais. Comment un pays qui dispose de ressources énormes en eau, en gaz, en or et surtout en pétrole pourrait être en banqueroute? Et nous sommes l'un des pays du continent latino-américain qui possède le plus de capitaux. Donc cette annonce de défaut partiel, c'est un énorme mensonge. C'est fait pour éloigner tous les investisseurs étrangers et créer une angoisse au sein de la population.
Une population partagée et Caracas reste sous pression. Dans les prochains jours à New York, un comité d'investisseurs pourrait à son tour déclarer un défaut partiel pour le non-paiement d'une traite de plus $1 milliard. Julien Gonzalez, Caracas, RFI pour France Inter.
Et quand Caracas boit la tasse, c'est son allié russe qui lui lance une bouée. Moscou pourrait faire un trait aujourd'hui sur une partie de l'argent que lui doit le Venezuela.
Des explosions, des coups de feu, des militaires qui s'invitent à la télévision. La confusion règne ce matin au Zimbabwe.
Coup d'État ou pas, telle est la question, alors que la nuit a été tendue dans la capitale Harare. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Des coups de feu entendus dans la résidence du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 37 ans et un général qui s'exprime à la télévision publique.
Good morning Zimbabwe, fellow Zimbabweans. Following the address we made on 13 November 2017,
Luc, un militaire en treillis à la télé, c'est jamais bon signe.
Oh oui, ça ressemble furieusement à un coup d'État. Une demi-douzaine de chars devant la résidence des Mugabe, des coups de feu contre la garde présidentielle et un général à la télévision avec un chef d'état-major de 61 ans à la manœuvre, hein, très proche du vice-président réfugié en Afrique du Sud et qui avait prévenu le camp Mugabe au pouvoir depuis 37 ans que les élections générales de 2018 ne pouvaient être une simple formalité pour reconduire au pouvoir une énième fois Robert Mugabe, le père de l'indépendance et le plus vieux dirigeant d'Afrique.
Oui, les opposants à Mugabe le soupçonnent de vouloir propulser son épouse au pouvoir.
Grace Mugabe est en effet sur le pas de tir pour ces élections de 2018. Elle veut au minimum le poste de vice-président. Elle a donc écarté son titulaire et a fait le lit du coup d'État. Il faut dire qu'à 52 ans, Grace Mugabe est pétrie d'ambition, connue pour ses coups de colère, son goût du luxe et de la jeunesse. Elle a le soutien de la Ligue des Femmes qu'elle dirige et du groupe 40, les jeunes militants de moins de 40 ans connus pour leur agressivité et dont le leader, le ministre des Finances, vient d'être arrêté. Grace Mugabe n'a pas les faveurs de l'armée et elle pourrait lancer la jeunesse dans la rue. tenter de reprendre la main pour la succession du camarade Bob. C'est son surnom.
Et les États-Unis et la Grande-Bretagne demandent à leurs ressortissants de rester à l'abri sur place. Merci Luc Lemonnier, chef du service étranger de France Inter. Dernière information à l'étranger, c'est l'incroyable boulette de la Russie dans sa guerre de communication contre les États-Unis. Hier, le ministère russe de la Défense a présenté plusieurs photos aériennes censées prouver que les États-Unis soutiennent les activités du groupe État islamique en Irak. Preuve irréfutable d'après Moscou. Mais l'une des photos était en réalité la capture d'un jeu vidéo, un jeu de guerre dans lequel un convoi est attaqué. Moscou a finalement retiré les clichés. Commentaire amusé du Pentagone, les communiqués de la Russie sont au moins aussi précis que ces frappes aériennes.
8h06, il y avait eu l'affaire Baupin chez les Verts. Voici peut-être son pendant chez les socialistes.
Libération dévoile ce matin le témoignage de 8 femmes, toutes militantes au MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Elles accusent l'ancien président du mouvement, Thierry Marshall-Beck, de harcèlement ou d'agression sexuelle. Les faits se seraient produits entre 2010 et 2014. Autant dire qu'ils sont pour la plupart prescrits. Mais le quotidien ajoute que de nombreux cadres socialistes connaissaient son comportement. Voilà ce qu'en dit l'actuel patron des MJS, Benjamin Lucas.
Surpris par l'ampleur de témoignages, de la violence subie par ces femmes et de ces agressions. Donc évidemment, c'est d'abord un coup de massue parce que voilà, ce sont des camarades, ce sont des femmes qui ont été agressées dans un mouvement politique. Il y a pu avoir des actes d'agression sexuelle aussi graves que cela.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous était aussi revenu aux oreilles ?
Non, il y avait sans doute une réputation, il y avait sans doute des bruits, etc. Il n'y avait pas de faits tels qu'ils sont rapportés aujourd'hui qui avaient été mis à notre connaissance. Mais comme c'est le cas souvent dans ce genre de situation et d'affaires, c'est-à-dire que on a des éléments, on a des intuitions, on a des doutes, mais que justement les prédateurs sexuels souvent sont des gens qui entretiennent le doute, y compris dans leur entourage. En tout cas, on doit être capable de mieux entendre la parole des femmes, de créer des cadres d'organisation qui permettent à chaque femme de s'engager à égalité avec les hommes.
Benjamin Lucas avec Anne-Laure Boussige, le PS fait part de sa stupéfaction et réclame des suites judiciaires. Impossible de le sanctionner en interne, car Thierry Marshall-Beck n'est plus membre du Parti Socialiste depuis 2 ans. Il fallait faire vite, c'est fait. Le Parlement a adopté cette nuit la surtaxe sur les grandes entreprises. Elles vont payer 5 milliards en plus pour compenser l'abandon d'une autre taxe sur les dividendes, cette fois censurée récemment par le Conseil constitutionnel. Alors, fin du feuilleton ? Eh bien, pas forcément, car désormais, c'est le monde mutualiste qui monte en première ligne. Banques, assureurs, mutuelles, ils vont devoir payer la nouvelle taxe alors qu'ils ne payaient pas l'ancienne et ils menacent déjà, Hélène Philly, de la répercuter sur les clients.
Ils ne versent pas ou peu de dividendes, mais devront tout de même payer la surtaxe, profondément injuste pour le directeur général du Crédit Agricole, Philippe Brassac.
On sait que le gouvernement n'a pas comme objectif de taper sur les banques coopératives et mutualistes, mais de facto, cela revient à cela. Le Crédit Mutuel, BPCE et le Crédit Agricole, à eux trois, paient 20% de l'effort national, ça paraît quand même beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle nous réagissons.
Les banques coopératives, mais aussi les assureurs et les mutuelles ont fait part de leur mécontentement jusqu'à menacer de répercuter le coût de cette taxe sur les tarifs. L'UFC Que Choisir met déjà en garde par la voix de Mathieu Esco.
La question, c'est que se passe-t-il l'année suivante ? Est-ce qu'ils vont baisser les cotisations parce que la taxe aura disparu ? On peut avoir de gros doutes.
Le président d'Harmonie Mutuelle, Stéphane Junic, l'affirme, il n'augmentera pas les cotisations, mais l'investissement, lui, sera touché.
Concrètement, les mutualistes investissent dans des crèches, investissent dans des établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées. Ce sont donc autant de leviers d'investissement qui ne sont pas possible de faire. Ça vient casser, au fond, la réponse que nous avons, la relation que nous avons à apporter à nos adhérents.
Le monde mutualiste reste mobilisé et compte défendre ses spécificités dans le cadre de la loi entreprise préparée pour le printemps prochain par le gouvernement.
Le carnet de chèques pour éviter un procès sans doute retentissant. La banque HSBC va payer 300 millions d'euros à l'État français pour solder une affaire de blanchiment de fraude fiscale. Elle avait convaincu des milliers de clients de placer leur argent en Suisse. La banque s'évite donc un procès, mais 2 de ses anciens dirigeants restent poursuivis par la justice. En voilà un qui n'a pas apprécié de voir son nom à la une du journal Le Monde, c'est Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH, épinglé la semaine dernière pour son goût des paradis fiscaux. D'après le Canard Enchaîné, ce matin, sa vengeance est toute trouvée. Il retire toutes les campagnes de pub au quotidien Le Monde jusqu'à la fin de l'année. Coût des représailles, 600 000 euros.
8h09, merci d'écouter Inter. Remettront-ils un peu de vert dans la grisaille actuelle ?
Angela Merkel et Emmanuel Macron s'exprimeront tout à l'heure à l'heure à la tribune de la COP23, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent lors du sommet sur le climat. 18 ONG demandent désormais aux couples franco-allemands de donner l'exemple et de prendre la tête du combat pour la planète. Mais quand on parle Europe et environnement ces temps-ci, c'est surtout pour évoquer le glyphosate et l'incapacité des 28 à interdire ce pesticide. Pourtant, certains ont déjà franchi le pas. Ainsi, le groupe Auchan ne vendra plus de glyphosate dans ses rayons à partir d'aujourd'hui. Alain Gastal.
Et Auchan n'est pas le premier à retirer le glyphosate de ses rayons. La marque Système U revendique un retrait de ses produits dès le début de 2017. Son porte-parole Thierry Desouche.
C'est une conviction. On pense que ces produits-là ont en effet, maintenant c'est avéré, des conséquences au moins sur l'environnement, sur la santé, il y a débat. Et donc, on a préféré devancer une obligation.
Des produits avec glyphosate, on en trouve encore dans les magasins spécialisés. Dans celui-ci, le rayon baptisé Pharmacie des plantes propose un désherbant célèbre comprenant du glyphosate. Seul bémol, s'il est visible, il n'est pas en libre service et nécessite donc de faire appel aux vendeuses.
Comme on a toujours le droit d'en vendre, on en vend toujours et on explique aux gens la différence entre un produit naturel et non naturel.
Et vous dites que c'est dangereux à certaines doses, vous dites quoi exactement?
Non, on ne dit pas que c'est dangereux, on dit comment l'utiliser.
Moi je leur dis que c'est dangereux et qu'il va falloir vraiment penser à utiliser d'autres méthodes parce que c'est vraiment pas génial pour la planète, pour tout, la nappe phréatique, tout.
Et le magasin propose donc une alternative non chimique mais plus cher car moins efficace.
Les produits biologiques sont un peu plus chers parce que forcément déjà une part il faut traiter plus souvent et ils sont souvent moins concentrés.
Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Record en vue pour Airbus. Le groupe s'apprête à annoncer une commande historique aujourd'hui. 430 appareils des moyens courriers. Il y en aurait pour 34 milliards d'euros. C'est une entreprise américaine qui signerait ainsi la plus grosse commande jamais enregistrée par le groupe franco-allemand.
Il dormait là depuis 8 siècles.
Un trésor médiéval vient d'être découvert à l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire, presque par hasard. C'est un coup de pelleteuse qui a permis à des chercheurs de tomber sur plus de 2000 pièces en or et en argent. Elles datent du 12e siècle. Trésor exceptionnel, disent les spécialistes. Mais on se demande quand même qui l'avait caché là, Claude Cordier.
On était en train de faire le décapage, donc d'enlever le gros de la terre, les couches superficielles à la pelleteuse et on a vu des pièces tomber. Donc là, on a immédiatement arrêté la pelleteuse.
Et le trésor est apparu. Les 9 étudiants comme Adrien Thoras n'en croyaient pas leurs yeux. Leur prof non plus, Anne Beau, qui travaille depuis 25 ans sur l'abbaye Cluny, l'une des plus grandes du Moyen-Âge en Europe, et ils décrivent le trésor.
Il y a plus de 2200 deniers clunisiens, donc c'est-à-dire que c'est des monnaies qui sont frappées à Cluny, plus 21 dinars d'or qui viennent donc d'Espagne du Sud, hein, c'était la monnaie qui circulait à ce moment-là, et puis également une très belle bague sigillaire. Tout cet ensemble est daté de la première moitié du XIIe siècle.
On avait énormément, autant des pièces en argent, même les pièces en or. La localisation aussi, on est à l'abbaye de Cluny. Il n'y a jamais eu de trésor monétaire découvert à l'abbaye de Cluny. Pour nous, en tant qu'étudiants, en tant que jeunes archéologues, c'est une découverte exceptionnelle parce qu'on n'a jamais vu ça. Et ces objets qu'on voit dans des musées, donc avoir l'opportunité de participer à leur découverte, c'est exceptionnel.
Une découverte qui interroge, à qui appartenait ce pactole? Pourquoi était-il enfoui là? Pourquoi des dinars frappés en Espagne et Maroc? Des questions auxquelles historiens et numismates vont tenter de répondre.
Pour la recherche sur le monde médiéval, et ça c'est une recherche qui est internationale, hein. Énormément de chercheurs vont être bien sûr extrêmement avides d'informations sur ce trésor.
Un trésor qui sera présenté au public d'ici 2 ou 3 ans. Lyon, Claude Cordier, France Inter.
Et à la fin, c'est l'Allemagne qui marque. Les Bleus ont frôlé l'exploit hier soir avant d'être rejoints à la toute dernière seconde par les champions du monde en titre. L'Allemagne et la France quittent sur un match nul, 2 buts partout. Aujourd'hui, c'est un autre match qui attend le sport français. Qui de la France, de l'Afrique du Sud ou de l'Irlande organisera la Coupe du Monde de rugby en 2023, un an avant les Jeux Olympiques à Paris. La réponse en début d'après-midi.
C'est mercredi, c'est cinéma avec une petite merveille aujourd'hui dans les salles.
2 enfants perdus dans New York à 50 ans d'écart. Il y a ce qui les sépare et ce qui les réunit. La suite, eh bien, c'est le Musée des Merveilles signé du réalisateur américain Todd Haynes. C'est le coup de cœur de France Inter cette semaine. Corinne Pellissier.
Ça, c'est à mon père. C'est dedans que j'ai trouvé le marque-page.
C'est un morceau de papier retrouvé dans un livre qui l'a conduit jusqu'à New York. Nous sommes dans les années 70 et suivons le parcours d'un garçon de 12 ans, Ben, venu du Minnesota, pour tenter de retrouver ce père qu'il n'a jamais connu. À 50 ans d'écart, une autre histoire, en noir et blanc cette fois-ci, celle de Rose, qui a choisi, elle, de quitter sa famille pour fuir une éducation trop rigide et retrouver dans la ville de la Grosse Pomme cette actrice de muet qui la fascine tant. Tous les deux sont sourds et vont devoir affronter de nombreuses épreuves avant que leur destin ne se croise. Cela fait longtemps que Todd Haynes rêvait d'un film pour les enfants, une sorte d'histoire à la Dickens, des personnages seuls et malheureux pour stimuler notre imaginaire.
I think all the best literature that's associated with
Pour moi, les meilleures histoires pour enfants, que ce soit chez Dickens ou Disney, ont tout à voir avec la peur, le danger, la mort et le sens de la vie.
J'arrive plus à parler.
Ces enfants ont su trouver leurs propres moyens de s'en sortir et de répondre aux questions qui les hantaient. Chaque fois que vous passez du noir au blanc, à la couleur, vous relancez la question essentielle du film. Pourquoi en sommes-nous là ?
Très peu de dialogue au final dans ce film qui parle essentiellement du pouvoir du langage et du temps qui passe. Un joli moment de poésie qui mélange ambition esthétique, émotion garantie.
Musée des merveilles à voir donc à partir d'aujourd'hui, film soutenu et aimé par France Inter. Enfin, ils ont bien cru que le ciel leur tombait sur la tête. Quelle était cette énorme boule bleue qu'ont aperçu des centaines de personnes hier soir en Alsace? Eh bien, renseignements pris par nos confrères de France Bleu, il s'agissait non pas d'un abus d'alcool, mais d'un météore, Nicolas, un météore, un petit corps céleste qui en entrant dans l'atmosphère a laissé cette traînée lumineuse pour les petits hommes verts encore ratée.